France Musique.
Bonjour Xavier Delaporte.
Bonjour Vincent.
Xavier de France Musique et de Rue 89 qui regarde pour nous la semaine. Alors il paraît que le titre de votre chronique ce matin, c'est une semaine de cochonnerie et d'amour.
Ah, ça c'est le titre que je vous ai donné à vous comme ça, c'est un petit secret.
Je ne fallait pas le dire à l'antenne, je suis très maladroit. Mais enfin, à mon avis, ça donne un petit peu le ton de ce que vous allez nous raconter.
Oui. Vincent, parce que la pudibonderie est une activité paradoxale. C'est ce que je me suis dit tout le week-end dernier, quand l'œuvre de Paul McCartney, à peine gonflée, à peine installée, Place Vendôme, a commencé à faire pousser des hauts cris à tout ce que Paris, et la France d'ailleurs, compte de détracteurs de l'art contemporain et autres défenseurs des bonnes mœurs. Rassemblant au premier regard un sapin stylisé, elle fut très vite décrite et l'artiste le revendiquait comme un plug anal.
Ce plug anal, donc.
C'est un plug anal géant de 24 mètres. Voilà, voilà.
Ouais. Le niveau célèbre. On élève le débat.
Entre l'agression de Paul McCartney au moment de l'inauguration de l'œuvre et son saccage la nuit suivante, tout le monde n'a eu à la bouche que ce syntagme. Il a même été prononcé avec une certaine délectation par ceux qui dénonçaient l'obscénité. Il y a de la jouissance à nommer ce qu'on déteste. Une jouissance étrange. Petite recherche sur Google Trends. Vous savez, c'est l'outil d'analyse qui permet de savoir quels sont les mots les plus souvent recherchés sur Google. Plug anal sur Google, fois 100 pendant le week-end. Sur Wikipédia, c'est un rapport de 6 à 100 pendant la même période sur les recherches.
C'est énorme,
plug anal. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la plupart des Français ne savaient pas ce que c'était qu'un plug anal avant ce week-end et qu'ils sont allés regarder sur Internet. Ils sont allés s'instruire sur cette pratique sexuelle. Voilà l'effet paradoxal de la pudibonderie. Combattre un symbole et faire découvrir une pratique sexuelle. C'est grâce aux conservateurs qui, eux, savaient manifestement ce que c'était un plug anal, donc que la France, qui n'est pas très pudibonde, a découvert ce que c'était. C'est drôle, ça. Arrive sur mon fil un lien vers une nouvelle étude américaine qui montre que les plus gros consommateurs de porno sur Internet aux États-Unis sont les habitants de ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible, en gros, les États du Sud américain, où se trouvent la plupart des chrétiens pratiquants. Les chiffres provenant de Google sont flagrants et définitifs. Ça me rappelle quelque chose dans un article de Salon, le magazine américain. L'article s'intitule « Personne ne mange une banane comme ça, plongée dans le monde étrange du safe for work porn ». Le safe for work porn, le porno qu'on peut regarder tranquillement au bureau. L'article raconte l'émergence de cette sous-culture numérique. L'idée, c'est de prendre des vidéos pornographiques et de maquiller la nudité des corps en dessinant en surimpression, de manière à transformer l'acte d'origine en une pratique innocente. D'où safe for work. On peut regarder ça tranquillement au boulot. L'article donne toute une série de liens vers des sites où l'on discute, mais hyper sérieusement, des meilleures réussites. On classe cette sous-culture en sous-genre, parce que ça, c'est toujours comme ça dans les sous-cultures, et en particulier dans les sous-cultures numériques, parce que comme elles sont mondialisées, elles sont gigantesquement étendues. Il y a tout un tas de sous-sous-catégories aux sous-catégories déjà existantes. Et donc, une des vidéos obtient la meilleure note. La journaliste annonce qu'elle mériterait même un Oscar. Je clique. Bon, Vincent, je ne sais pas si je vais décrire, mais disons qu'on voit des bananes, des fesses transformées en djembé, ce genre de choses. Alors, je me laisse aller et je finis par trouver ça presque un tout petit peu excitant, peut-être même plus excitant que les scènes d'origine. D'abord, il y a le fait que voiler, c'est plus érotique que dévoiler. D'ailleurs, je cherche la phrase de Barthes exacte. Je ne sais plus, je tombe sur des annonces de colloques, etc., mais impossible de trouver la phrase exacte sur le voiler-dévoiler. Et puis, il y a le genre particulier des caches qui sont utilisées en l'occurrence. Les couleurs acidulées, des formes élémentaires pour masquer les corps, kitsch, enfantine. C'est ça, ça rappelle le dessin animé. Et ça me rappelle un dessin animé en particulier, je cherche l'image, c'est celle de Roger Rabbit, le dessin animé qui mélangeait les personnages humains et les cartoons et la fameuse chanteuse et sa robe rouge. Je cherche la scène dans la boîte, celle où elle chantait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le porno soi-disant tranquille au boulot, il rejoue l'excitation qu'on a eue, ado ou pré-ado, à ces mélanges entre le cartoon et les corps. Tiens, je lis un bon papier sur The Atlantic, paru cette semaine encore, qui raconte comment les mots employés dans les textos évoluent au cours d'une histoire d'amour. Au début, ce sont des interjections. Hey, ou alors le prénom de l'autre, ou alors le mot amour, ou alors des parties du corps. Et puis au fur et à mesure que la relation s'infirme, qu'elle s'institutionnalise, les mots changent. Le mot dîner devient majoritaire. Ou alors le mot ok. Et on finit par ne plus se dire que ça quand on s'envoie des textos à l'intérieur d'un couple. Ok, ok. Pas vraiment un problème de pudibonderie, mais le petit mot érotique deviendrait presque incongru dans ses communications. C'est tout ce que raconte la Brahms Rhapsody de Biolay et Jeanne Chéral, cette chanson que je mets à fond.
Il faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06-06-06-06 le soir, chez moi.
J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon homme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où.
Parce que je t'aime.
Brahms Rhapsody, un titre... de Benjamin Biolay. Merci pour cette semaine qui ne vous a pas déplu finalement, Xavier Delaporte.
Finalement oui, c'est comme ça.
On retrouve votre chronique sur francemusique.fr. Vous êtes de Rue 89 et Rue 89 est le partenaire de la matinale de France Musique.